rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de radio qui parle de culture sous toutes ses formes, celle qu'on aime et qu'on a envie de vous recommander. Pour cette émission de rentrée, Aurore et moi avons sélectionné des romans, parmi ceux de l'incontournable rentrée littéraire, Long Island de Colm Tóibín et Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet, d'autres que nous avons particulièrement aimés, un roman de Frédéric Lenoir, L'oracle della Luna, et un premier roman, Blanche, de Claire Veuzin. Il sera aussi question de jeux de société, avec l'excellent Haut les mains. Enfin, nous parlerons de musique, avec notre invitée spéciale, la chanteuse Iris du groupe Paper Moon, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio. Bonjour Iris.
Bonjour Anne, bonjour Aurore.
Bonjour.
Mais tout de suite, parlons d'abord littérature, avec le beau roman du grand auteur irlandais Colm Tóibín, de retour avec Long Island, paru chez Grasset. On est dans les années 70, à Long Island. L'héroïne est irlandaise, mariée à un Italien émigré aux États-Unis. Ils ont deux ados. Les relations avec sa belle famille ne sont pas toujours faciles pour elle. C'est un clan italien très soudé et envahissant, habitant des maisons voisines, avec les déjeuners familiaux obligatoires le dimanche. Mais elle est heureuse, tout va bien. Mais tout bascule quand un homme sonne à sa porte en furie et lui apprend que non seulement son mari a eu une liaison, mais que la femme est enceinte de lui et qu'il va devoir s'occuper du bébé. Pour Elise, c'est insupportable, d'autant qu'elle découvre que tout a été arrangé dans son dos et que la mère de Tony entend accueillir l'enfant dans la famille, l'élever de la même façon que ses enfants légitimes. Or, elle n'en veut pas. Et pour fuir l'arrivée du bébé, elle décide de retourner passer l'été chez sa mère en Irlande, où elle n'était pas allée depuis 20 ans. Elle y retrouve un homme qu'elle a aimé. C'est une histoire simple, une écriture simple, presque naïve, qui donne un roman hypnotique qu'on ne lâche pas une fois commencé, et c'est un grand plaisir de lecture. Nous y retrouvons les personnages de Brooklyn, mais si vous ne l'avez pas lu, ni vu le film de John Crowley qui en est l'adaptation, ça ne vous empêchera nullement d'apprécier et de vivre leur histoire avec une impressionnante proximité, tant la plume de Colm Tóibín est magnétique. Simple mais pas simpliste, l'auteur a le don de pénétrer dans l'âme de ses personnages, avec une analyse et une profondeur psychologique remarquables. Il comprend la complexité des sentiments, des peurs, des doutes et des espoirs qui gouvernent les comportements. Il dresse le portrait d'une femme déterminée et perdue à la fois, d'un homme sensible, d'un calme et d'une troublante pudeur, pris dans un dilemme. Il doit faire des choix existentiels, tiraillé et déchiré par ses sentiments et ses devoirs moraux et sociétaux. C'est l'éternel combat entre la raison et les sentiments. Et les non-dits sont chargés d'une puissance émotionnelle touchante. Colm Tóibín a un style incroyable. Il manie les silences avec une grande justesse et il exprime la pudeur et les émotions en toute subtilité. La douceur et la délicatesse de l'écriture tempèrent la confusion des sentiments. C'est un grand roman d'amour qui nous emporte totalement. Aurore, maintenant, va nous présenter son coup de cœur pour L'oracle della Luna.
Et oui, Anne, L'oracle della Luna, c'est un récit initiatique. Alors moi, vous savez que j'aime toute la partie un peu imaginaire, fantasy. Là, tout commence lorsqu'un monastère du XVIe siècle recueille un jeune homme blessé et amnésique. Donc on est quand même sur un roman qui a un fond historique, on va dire, puisqu'il se s'ancre dans le temps. Et ce jeune homme, c'est Giovanni. Depuis son enfance, dans un village paysan de Calabre, Giovanni a vécu bien des péripéties et quelques moments de grâce, il faut le dire. Adolescent, il tombe amoureux d'une noble qu'il n'a fait qu'apercevoir et il fait le vœu solennel de la retrouver pour l'aimer plus encore. L'amour qui guide Giovanni lui ouvrira de nombreuses portes et le fera passer par des chemins parfois très douloureux. Et à travers le récit de sa vie, c'est un véritable conte philosophique qui s'ouvre pour le lecteur, et c'est là que la partie un peu imaginaire entre en jeu, à la fois imaginaire mais aussi apprenante, puisqu'on découvre avec lui, on étudie avec lui et on apprend avec Giovanni. De l'astrologie au christianisme, en passant par l'islam, le judaïsme, on redécouvre des sujets qui sont toutes sommes communs pour nous, mais sous l'angle de la réflexion et de la tolérance. Et c'est là que, du coup, on a une perspective un peu différente de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, parfois, dans l'actualité. Giovanni va aussi nous faire voyager en Europe et dans le bassin méditerranéen du XVIe siècle. L'Italie, bien sûr, avec ses différents royaumes à l'époque, mais aussi Alger, Malte ou Jérusalem. Un jour, Giovanni va croiser une femme, une autre femme, pas la première. Et comme il l'aura sauvée des flammes, elle tentera aussi de le sauver à sa manière, en tentant de voir son avenir et de lui épargner certains chemins tortueux. Et si la vision n'est pas claire, elle reste quand même gravée dans l'esprit de Giovanni tout au long de sa vie et de son périple, et donc du roman. Cette femme, c'est Luna, celle qui donnera son nom au roman, l'Oracle della Luna. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe français assez réputé. Il est aussi historien des religions et donc romancier. Donc c'est un peu son savoir à lui qu'il essaie de faire nous transmettre par le biais de son roman. Et il a une écriture très fluide, très très facile à lire. S'il arrive toujours quelque chose à Giovanni, on n'est pas non plus bercé dans un suspense insoutenable. Son écriture est plutôt celle du conte qui nous emporte, qui nous en dit assez pour que nous n'ayons pas besoin de deviner les aspects cachés. Pourtant, Frédéric Lenoir sait aussi entretenir un certain mystère autour de Luna et autour de la destinée de Giovanni. Thème fil rouge avec celui du libre arbitre. Et oui, est-on libre de nos choix ou notre destin est-il tracé d'avance ? Toujours la grande question. En tout cas, c'est une question à laquelle Frédéric Lenoir nous fait réfléchir habilement, en y apportant même quelques éléments de réponse argumentée, s'il vous plaît.
Alors, je vais revenir sur la rentrée littéraire avec un roman français, cette fois, Le syndrome de l'orangerie, de Grégoire Bouillet. Ce roman commence avec l'exergue suivant, « I see dead people ». Un sixième sens qui pose vraiment l'ambiance. Le syndrome de l'orangerie fait penser au syndrome de Stendhal, qui fait référence à l'état de choc que l'on peut ressentir lorsqu'on se trouve devant une œuvre d'art. Et le narrateur va à l'orangerie voir les nymphéas de Monet, qu'il n'avait jamais vues. Or, il n'a pas le choc esthétique attendu. Mais au contraire, il a un énorme malaise. Ainsi, durant 420 pages... Et encore, je précise que Grégoire Bouillet a fourni un gros effort de restriction, puisque d'habitude, ses romans font plus de 1000 pages. Et là, il va essayer de comprendre pourquoi ce tableau, les nymphéas de Monet, provoque en lui une telle angoisse. Il se pose des questions vertigineuses, que même personne ne se pose. Et pourquoi Monet a peint 400 tableaux des nymphéas, ce qui représente à peu près un quart de sa production ? Il va se pencher sur la vie du peintre, son époque, sa femme, son fils, mort à la guerre, et se demander si derrière la beauté lumineuse des nymphéas ne se cachaient pas toutes les obsessions et les chagrins de Claude Monet, et quels secrets le peintre a-t-il bien pu dissimuler dans ses grands panneaux, consciemment ou non. Et ça va être prétexte à beaucoup d'enquêtes, le narrateur étant détective privé. Et il a une alter ego qui s'appelle Penny, à qui il s'adresse régulièrement et qui est très drôle. Il y a de nombreux passages où il se met en scène, un peu comme Philippe Genada avec toutes ses digressions. Et avec un esprit bouillonnant, il nous parle aussi bien du camp d'Auschwitz-Birkenau que du professeur Tournesol dans Tintin, d'Edgar Allan Poe ou des Jardins de Giverny. C'est un texte foisonnant, aux confins de l'enquête policière et de l'analyse psychanalytique, où s'entremêlent différentes strates constituées par des éléments biographiques et les œuvres de Monet. Et puisqu'une œuvre d'art résulte autant de son créateur que de celui qui la regarde, le narrateur interroge beaucoup son propre positionnement par son rapport à ses nymphéas. Épuiser leur mystère revient à épuiser son angoisse. Et ce faisant, il nous invite à regarder les œuvres d'art avec un regard neuf, inédit. C'est exaltant, profond et drôle, un formidable hommage à l'art, aux artistes, et une quête existentielle vraiment captivante.
Moi, je suis super fan de Claude Monet. Et du coup, j'ai eu ce syndrome de Stendhal, un peu quand tu dis, quand je me suis posée devant la première fois que j'ai vu une de ses œuvres. Je me suis posée, mais genre comme un quart d'heure, bouche bée, et je pouvais plus bouger, quoi. Enfin, donc, du coup, ça m'intéresse beaucoup.
Esthétique.
Ouais. Ça m'intéresse beaucoup, ce roman. Syndrome de l'orangerie.
Il est vraiment très intéressant.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Eh bien écoute Anne, je vais prendre la suite avec un jeu qui s'appelle Haut les mains. Alors moi j'ai découvert ce jeu de société lors d'un week-end entre amis. Si jamais vous êtes adepte du Time's Up, alors je vous garantis que vous allez adorer Haut les mains. C'est une valeur sûre. C'est un jeu d'ambiance à jouer en équipe pour 4 à 16 joueurs. Alors nous on était 4, on s'est déjà super bien marré, donc j'ose pas imaginer le bazar que ça doit mettre à 16 joueurs. Mais ça se tente hein. Le but est simple, faire deviner le plus de cartes possible en une minute. Le tout en trois manches qui vous proposent chacune des thèmes différents. Haut les mains, c'est un savant mélange de mimes, de tabous pour les plus anciens, le jeu où on doit faire deviner des mots, et de jeux musicaux. Facile, je précise. Enfin, facile, ça dépend pour qui. Parce que ce qui est super avec ce jeu, c'est que chacun peut trouver son point fort. Par exemple, moi, je suis plutôt à l'aise pour faire deviner des mots, ou alors chanter un début de parole, avec super, parce que j'ai pas du tout le... Comment on dit, Iris, le sens de la musique, enfin, je chante faux, quoi.
L'oreille musicale.
Ouais, voilà, j'ai pas du tout l'oreille musicale, mais quand même, je suis assez douée pour trouver les débuts de chansons, remettre les bons airs, et du coup, après, mes coéquipiers doivent chanter la suite. Ça, ça marchait très bien. Par contre, si je ne peux pas parler et qu'il faut que je fredonne, alors là, je deviens complètement nulle. Donc, ma place, à ce moment-là, c'est celle qui doit deviner plutôt que celle qui fait. Donc, chacun peut trouver sa place et là où il est meilleur. Pour les mimes, j'ai des amis qui sont imbattables. Bon, je me souviens d'un coup à propos d'une glacière, mais je ne vais pas vous raconter ça maintenant. Bref, tout le monde a sa chance et chaque équipe se bat férocement contre l'autre pour obtenir le plus de points à la fin. Même si parfois, certains sont tellement nuls qu'on aurait presque envie de les aider, eh ben, je vous invite à vous retenir. Hein.
C'est deux équipes, même quand on est 14 ?
Bonne question. Non, évidemment, on n'a joué qu'à deux équipes à quatre. Ouais. Je pense que tu peux faire jusqu'à quatre équipes.
D'accord.
Tu peux faire quatre équipes de quatre. Oui, sans problème, parce que du coup, il y a plusieurs. Quatre équipes, je pense. Donc voilà, en tout cas, fou rire garanti. En plus, ils ont une deuxième version qui est disponible depuis peu. Donc pour ceux qui auraient déjà écumé le premier volume de Haut les mains, ben vous pouvez renouveler vos cartes à partir du deuxième jeu pour de nouveaux challenges. Allez, cap ou pas cap du coup?
Ben ça donne envie. Alors moi je vais vous parler d'un roman français aussi qui est paru au printemps. C'est Blanche de Claire Vezin. C'est un premier roman. Il se passe dans une ville de banlieue parisienne appelée Villedeuil. C'est de nos jours sur la durée d'un stage d'internat, un semestre. On va suivre la vie de quatre personnages principaux dans le service des urgences d'un hôpital. Une jeune interne, Aimée, issue d'un milieu favorisé, elle a choisi cet hôpital plutôt qu'un établissement plus prestigieux. Une jeune infirmière chargée d'accueillir les patients, un chirurgien qui a fait toute sa carrière dans cet hôpital et enfin un médecin urgentiste. Et il va se passer un incident qui va tous les marquer, les bousculer. Ce roman met en valeur l'humanité du personnel soignant et l'auteur va lier constamment la vie de l'hôpital et la trajectoire personnelle des personnages, leurs amours, leur paternité, leurs rêves et déceptions. Chacun a ses propres luttes et aspirations et leur histoire personnelle respective va impacter la façon dont ils voient les gens et dont ils les soignent. C'est pleinement immersif. On explore la vie de ce service dégradé vécu par les professionnels. On vit le métier au quotidien avec ses difficultés à travers leur regard, un regard lucide et critique sur la façon dont on traite l'hôpital public aujourd'hui. On comprend comment l'hôpital est confronté au manque de moyens. L'auteur sait de quoi elle parle puisqu'elle est elle-même médecin cardiologue à Argenteuil et elle tient un compte Instagram intitulé « Madame le docteur V », nourri d'anecdotes sur son quotidien en cabinet et en hôpital public. Et c'est non seulement juste, mais aussi sensible. Elle a une vraie empathie pour ses personnages et c'est extrêmement touchant. Ce qui m'a fascinée, c'est comment ce cadre réaliste se révèle un formidable matériau romanesque, avec des enjeux dramatiques et émotionnels très forts. C'est une micro-société où tout se passe et peut se produire, de la naissance à la mort. C'est idéal pour raconter l'humain. Un lieu de rencontre du banal et de l'horreur, comme l'écrit Claire Vezin. Elle donne à voir l'ordinaire des urgences, où l'on va d'une otite à un diagnostic de tumeur cérébrale, d'une dépression à un paludisme, sans vouloir impressionner, mais avec sobriété. Et j'adore la typographie. On a des petits paragraphes avec des interlignes importants, des sauts de lignes très agréables, comme des respirations, qui font qu'on se sent bien dans notre lecture. L'écriture est remarquable, de fluidité. C'est un roman choral, habilement construit, chaque chapitre étant raconté par un personnage qui a son épaisseur. Une intense mélancolie s'en dégage. Et grâce à la finesse d'écriture, c'est autant sombre que lumineux. L'espoir émerge au milieu des failles et de la tristesse. Car si tous souffrent, ils aiment profondément leur travail. Et ils ne perdent pas de vue leur engagement et ils sont soutenus par la force du travail d'équipe et la solidarité qui en émane. Ainsi, bien plus qu'un simple témoignage des abusés sur l'hôpital et le mal-être des soignants, Claire Vezin nous offre une réflexion sensible et incarnée sur ce que veut dire soigner dignement. Et surtout, elle nous offre un grand roman. On va passer à la musique maintenant et on va écouter un titre que j'aime beaucoup du dernier album de Paper Moon, Les Rois se meurent.
Les rois se meurent dans des palais d'illusions, sans la moindre erreur, sans la moindre hésitation. Bien sûr, il est midi à ta porte. C'est bien pour ça que le diable t'emporte. Les rois se meurent d'avoir toujours eu raison. La terre est plate tant que tout le monde le dit. La terre est plate et le contraire interdit. L'incertitude me paraît plus fréquentable. L'incertitude fait plus joli sur ma table. Ma vérité, c'est la relativité. Les rois se meurent dans des palais d'illusions, sans la moindre erreur. Chacun des brumes dans un endroit différent. Chacun des brumes, peut-on les saisir vraiment? Alors je doute, je reviens sur la question. Alors je doute, je demande des précisions. Et je m'en tiens au bonheur des petits riens. Les rois se meurent dans des palais d'illusions, sans la moindre erreur, sans la moindre hésitation. Bien sûr, il est midi à ta porte, c'est bien pour ça que le diable t'emporte. Les rois se meurent d'avoir toujours.
Nous venons d'entendre un titre du dernier album de Paper Moon, Les chansons de la théière bleue. C'est le volume 2 qui est paru le 9 mars. Iris, bienvenue dans notre studio.
Merci.
Alors d'abord, Paper Moon, quelle est l'origine de ce nom de groupe ?
Ah, le nom. Alors on nous le demande souvent. Ça a été une petite histoire. Ça n'a pas été d'un coup Paper Moon. On a commencé par déjà se rencontrer avec Pierre et Benoît à l'époque. Alors je suis nulle avec les dates, mais il y a longtemps. Et avec Pierre, on s'est rencontrés à la fin d'un concert d'une amie commune qui s'appelle Marie-Claire Buzy. Et moi j'étais toute jeune, j'avais envie de chanter. On nous présente. Pierre écrivait déjà des chansons. Et donc ça a été cette rencontre à la fin du concert où on s'est dit bon, est-ce qu'on ferait un petit bout de chemin ensemble et est-ce qu'on ferait un peu de musique? Et donc il m'a envoyé un petit CD parce que c'était ça à l'époque, on s'envoyait pas des SoundCloud ou on s'envoyait un CD. Donc j'ai reçu ma petite enveloppe avec mon CD et puis j'ai écouté ces chansons qui m'ont plu et j'ai aimé tout cet univers avec toutes ces images, il y a tout un tas de couleurs, tout un tas de paysages. On sent que les voyages qu'il a fait l'ont beaucoup inspiré. Et donc, Paper Moon, ça commence déjà par cette rencontre. Ensuite, on commence à se dire bon, ok, on a enregistré 3-4 chansons, on va peut-être faire un MySpace à l'époque. Et donc, il faut bien qu'on trouve. Un nom à notre projet.
Désolée, je rigole trop avec le MySpace.
Ah oui, oui. Bah oui,
ça fait effectivement à une autre époque.
Ça fait complètement dinosaure, mais en fait, MySpace, j'en parle parce que ça a été vraiment le catalyseur de notre début de carrière, en fait. Ça a été très important d'avoir ce MySpace.
Ça a été remplacé l'ancêtre de YouTube, hein, on est d'accord.
Non, MySpace, c'était déjà un espèce de réseau social, en fait, où il y avait un player où on pouvait mettre 4-5 chansons. Et en fait, on avait des amis, c'était des artistes qui pouvaient avoir des liens avec nous. Donc en fait, c'était le début d'un réseau social plutôt autour de la musique et de l'art. Et ça a été repris. Ça a changé de nom et c'est complètement tombé dans l'oubli parce que après Facebook, Instagram et tout un tas d'autres réseaux sont venus prendre la place, mais voilà. Et donc Peppermint au début, on voulait quelque chose d'un peu qui sonne bien. Alors Pierre est graphiste aussi, donc fallait que ça soit joli écrit. Donc il y avait tout un tas de trucs. Donc on a réfléchi, on a donné plein d'idées, et puis des influences nous ont inspiré. Donc Sgt Pepper des Beatles, on s'est dit tiens, Pepper c'est cool. Le poivre c'est quand même une épice qui relève un plat, qui donne du piquant, qui donne du goût. Et au début c'était Peppermint pour le côté frais. Voilà, de Peppermint. Mais finalement, Peppermint, ça faisait un petit peu chewing-gum, quoi. Donc on s'est dit, nous ne sommes pas des chewing-gum, nous sommes des chanteurs et des musiciens. Donc le Moon est arrivé pour son côté féminin, pour tout ce qui était, ce que j'apportais, moi, du côté lunaire. Alors pour ceux là, aujourd'hui, on ne verra pas mon visage, mais vous pouvez aller voir sur le net. Donc il y a un côté assez lunaire aussi dans mon visage qui est un peu rond, et puis le côté féminin de la lune. Donc et si vous le voyez écrit Pepper avec les deux P et les deux O, pour un graphiste c'était très cool. Voilà, Pepper Moon, le début de ce nom.
Du coup, je me permets, sur quel réseau social d'aujourd'hui on peut voir ton visage?
Alors,
on peut écouter vos musiques du coup?
Sur Facebook, sur Instagram, et je crois que c'est déjà pas mal.
Pepper Moon, du coup.
Pepper Moon.
Et toi, avant cette rencontre, t'avais déjà envie de chanter
J'avais très envie de chanter, mais j'étais toute jeune. Je sortais à peine du lycée. J'ai eu mon bac. J'ai dit à mes parents, voilà, moi, je veux faire de la musique. Et mon père m'a dit, oui, mais tu passes ton bac. D'accord, papa. J'ai passé mon bac, je l'ai eu avec mention. Et après, j'ai dit, bon, bah, maintenant, je fais de la musique. Et ils m'ont dit, d'accord, parce que c'était le deal de départ. Donc, j'avais envie de faire de la musique. J'ai fait une formation qui m'a permis de mettre un premier pied dans la musique. Et j'ai rencontré Pierre. Donc ça a été la première expérience de groupe, de me retrouver dans un home studio, donc qui n'était pas un énorme studio parisien, mais qui était quand même toute une petite machinerie avec voilà, les séquenceurs sur les ordinateurs, un beau micro, un casque sur les oreilles comme aujourd'hui. Et donc c'était mes premières vraies expériences de chanteuse plus professionnelle. Et donc on a fait tout un tas de beaux enregistrements. Et donc le premier album est arrivé assez vite comme ça. Et un premier concert le jour de mon anniversaire, de mes 19 ans, je crois.
3 juillet,
au Café de la Danse. Premier concert. Et alors, il se passe toujours des choses le 3 juillet. Cette année, le 3 juillet, pour mon anniversaire, on a fait une émission à Radio Bleu à Amiens, en live, avec Pepper Moon, alors que ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas joué ensemble en live. Donc, c'était vraiment cool. Et toujours le jour de mon anniversaire, il se passe des choses. Il y a 2 ans, on était à Düsseldorf pour mon anniversaire. Voilà, donc l'année prochaine, on verra bien ce qui se passe avec Pepper Moon le 3 juillet.
Alors justement, c'est une particularité de Pepper Moon, c'est que vous rencontrez beaucoup de succès à l'étranger et surtout en Asie.
C'est ça, ça a commencé. Alors avant l'Asie, on a été aussi en Hollande. Ça a commencé vraiment là, où on a été en fait une des chansons du premier album qui s'appelle Les Petits Miroirs. A été pris sur une compile qui s'appelle Filles Fragiles. Et en fait, ça nous a permis d'aller faire ma première et unique télé à Amsterdam. Un soir de décembre, on fait un talk show qui était le talk show de Hollande à ce moment-là. Et c'était incroyable parce que ça faisait 6 mois que je faisais de la guitare et j'étais avec le guitariste de l'époque dans le groupe. Et donc là, je suis sur un plateau. On m'a maquillée bah comme à la télé, quoi. Un truc, évidemment, on ne refait jamais ça dans sa vie après. Hein. Et ça parle en néerlandais pendant toute la soirée. Je sais qu'à un moment, il va falloir que je fasse go et que j'ai 1 minute pour chanter ma chanson. Et donc, je fais ça. Je chante ma chanson quand je sens que c'est à moi, parce que je comprenais absolument rien à ce qu'il se disait. Et en fait, après coup, on me dit qu'il y avait plus d'un million de personnes devant le téléviseur parce que c'était le talk show qui avait été primé cette année. Alors c'est un petit pays, la Hollande, mais donc un million pour eux, c'est énorme. Et si on m'avait dit ça avant, je pense que j'aurais été moins souriante et moins détendue.
Je serais restée sans voix.
Voilà, donc ça commence à Amsterdam. Et ensuite, grâce à MySpace, en fait, il y a un producteur taïwanais, Lou Wang, qui a repéré Paper Moon et qui s'est dit, dans mon label, il y a tout un tas de fans de musique internationale et Paper Moon, ça serait chouette. Et en fait, il mise sur notre projet. Il produit les albums là-bas. Donc, on a tout un tas de versions de nos albums avec les paroles écrites en taïwanais, avec des pochettes un peu différentes, avec des livrets. Donc, j'ai toute une boîte avec tous les albums de Paper Moon de tous les pays. Donc, c'est assez, assez collector. Et donc, on fait notre première tournée là-bas, qui est... On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On fait c'était le Salon du Livre et c'était plutôt axé sur la France. Donc, il y avait Isabelle Lambert qui fait les triplés, enfin, qui dessine les triplés. C'était ce Salon du Livre qui nous a vraiment fait un premier pas, faire un premier pas en Asie. Et en fait, on fait des petites interventions sur le Salon du Livre. Et à la fin de ce séjour taïwanais, on a une grosse salle qui est bookée pour faire un concert. On n'a aucune idée. On se demande s'il va y avoir 3 personnes qui viennent. Et en fait, pendant le Salon du Livre, on fait un petit show, on fait, je sais pas, une dizaine de chansons. Et puis après, on a les albums, on peut les vendre aux gens qui passent. Et donc, je commence à discuter avec une jeune fille qui avait l'album dans les mains. Elle veut que je lui dédicace parce qu'ils sont plus fans que nous en Asie. Ils aiment bien... Voilà, ils aiment bien avoir une photo, ils osent peut-être...
Idole.
Ouais, plus qu'ici. Ici, ça fait un peu naze, quoi, d'aller voir l'artiste à la fin. On dit non, c'est bon, on va laisser tranquille. Là-bas, ils ont un côté plus fan, comme ça. Et donc, cette jeune fille vient, on discute, alors en anglais, évidemment. Et puis, en fait, il y en a une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis je lève la tête, et il y a 50 personnes qui attendent. Et là, je me dis, waouh, j'intéresse les gens ici. Donc ça a été, et c'était mes premières expériences de chanteuse qui intéressait par son projet, donc c'était super chouette. Et ensuite, en fait, cette expérience a fait des petits. On a été en Chine, on a été en Corée, on a été à Hong Kong, enfin voilà, donc ça a été tout un tas de super voyages, hyper agréables, des super concerts dans des salles, des belles salles avec des beaux matériels, enfin des choses qu'on n'a jamais fait en France en fait. On a toujours eu un succès très, très confidentiel en France, et aussi à une époque où les groupes français qui marchaient étaient plutôt des groupes qui chantaient en anglais. C'était le groupe de The Do, c'était le moment de Cocoon, enfin des duos comme ça qui étaient plutôt des duos qui chantaient en anglais. Le français était finalement, aujourd'hui, on ressortirait les albums, ils auraient peut-être plus leur place dans le paysage. Voilà. Mais en tout cas, ces expériences, voilà, c'est un groupe qui m'a énormément fait voyager et qui continuera, je l'espère.
Oui, et d'ailleurs, comment a été accueilli ce 5e album ? Est-ce qu'il a rencontré autant de succès ?
Alors, malheureusement, en Asie comme ailleurs, la crise du disque a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, les principaux distributeurs de Paper Moon ont fermé, en fait. Donc, on a quelques retours. Et c'est vrai que sur... Enfin, Pierre le dirait mieux que moi, parce que c'est lui qui a les chiffres en main. Mais il remarque, un jour, je lui ai quand même dit, Pierre, sur Facebook ou sur Instagram, fais les posts en français quand même. Tu peux les faire en anglais, mais en français. Il me dit, mais personne n'écoute en France. Si on regarde les chiffres, c'est les internationaux qui nous écoutent. Donc, bon, après, il a quand même écouté ma remarque et il les a mis en français pour les gens qui pourraient avoir envie. On chante en français. Donc, je trouve ça toujours assez incroyable que les Français y adhèrent moins que les gens ailleurs. Après, j'imagine que la sonorité du groupe fait très Frenchy. Et donc, ça plaît aussi aux gens. Il y a le côté un peu romantique qui peut leur plaire sans forcément avoir toute la finesse du texte qui est vraiment là. Je le dis très honnêtement parce que ce n'est pas moi qui écris ces chansons. Donc, je peux le dire avec beaucoup de ferveur. Pierre écrit avec beaucoup de finesse, d'espièglerie aussi. Il a... Si on écoute comme ça, un peu à la va-vite, on n'a pas forcément toutes les subtilités de ce qu'il a envie de dire. Mais ça n'est pas, ce ne sont pas des textes rose-bonbons qui disent « Je t'aime peut-être un peu demain, je ne sais pas ».
Alors, je suis tout à fait d'accord, parce que les premières écoutes, je trouvais ça doux, beau, t'as une voix superbe en plus. Et puis, c'est à force d'écouter, et effectivement, on commence à comprendre les paroles. Plus j'ai écouté, plus j'ai aimé.
Ouais, parce que et c'est vrai que parfois, des gens s'arrêtent à cette première écoute qui a l'air un peu mièvre. Parfois, on nous dit ça. Mais c'est pas mièvre du tout, parce qu'au fond, il y a tout un tas de... Par exemple, les Rois se meurent qu'on vient d'entendre, c'est vraiment une chanson qui se pose des questions sur les vérités établies, sur les gens qui nous disent « c'est comme ça » et d'être capable de faire un pas de côté et de remettre en question les choses. Donc, sous une apparente pop très légère comme ça, ça peut vraiment permettre de se questionner et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit comme ça en allumant notre poste de télé préféré.
Et ben, je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de l'album, Fellini Circus Girl, un titre que j'aime beaucoup pour sa fantaisie légère et sa drôlerie qui nous transporte dans un cirque félinien. Et on poursuit juste après.
Turban, un jongleur italien, un vieux clown inquiétant, un mauvais magicien, et puis moi, un cheval malheureux, un dompteur un peu gros, près du cracheur de feu, un lanceur de couteau, et puis moi qui attends.
C'était Fellini Circus Girl, un titre de l'album Les Chansons de la Théière Bleue. Alors c'est un deuxième volume, après le premier volume qui est sorti en 2019. Pourquoi avoir fait ce deuxième opus? Est-ce que ces deux albums se suivent, sont complémentaires et est-ce qu'il faut les écouter à la suite?
Alors je ne peux que vous recommander de les écouter à la suite, mais...
Et en boucle, bien sûr.
Et en boucle, évidemment, voilà, pour que peut-être, grâce aux écoutes Spotify, je puisse aller manger au resto un jour. Écoutez, ça n'est pas... on peut picorer cet album. Ça n'est pas un album qui raconte une histoire un romanesque. On peut picorer et on peut picorer les deux. Ils ont été enregistrés assez dans la foulée l'un de l'autre. Et c'est peut-être... C'est pour ça qu'on les sentait frères et sœurs. Il y avait une cohérence dans l'époque. Et le deuxième a mis un petit peu plus de temps à sortir parce que certains ajustements de son, certaines chansons à peaufiner. Et puis parce que sortir 40 chansons d'un coup, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Voilà, c'est de très mauvais goût. Non, et donc voilà pourquoi il y en a deux. Mais ils peuvent être dégustés l'un et l'autre comme vous voulez, le matin, le soir, en pyjama.
Et pourquoi la théière bleue ?
Alors ça, c'est parce qu'à Montmartre, dans le petit studio de Pierre, on boit des hectolitres de thé. Et voilà, c'est pas très rock, c'est vrai. Il y a des groupes qui vont boire des bières ou des ginto. Et nous, on boit beaucoup de thé. On va à la petite boutique Néo-Thé, juste à côté, qui va chiner en Asie, la plupart du temps, des thés délicieux. Et voilà, cette théière bleue trônait la table, juste à côté du micro. C'est une constante. Voilà, les moments avec Pierre sont toujours ce commence avec un thé et après c'est toute l'après-midi. Voilà, c'est
tout. Et ça va très bien du coup avec toute la rondeur et la douceur aussi de vos textes et de votre musique.
Enfin, voilà, et ce
le
côté
thé plutôt
réconfortant.
Que le ginto ou la bière.
Exactement, ce côté réconfortant à se mettre sous un plaid, se faire un bon petit thé. Et puis, c'est vrai que les chansons de Paper Moon ont plutôt une vertu apaisante et de légèreté qui fait du bien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les gens, le retour qu'on me fait. Et c'est vrai, le pouvoir de la musique, vous mettez dans vos oreilles Paper Moon dans le métro parisien, mais vous allez beaucoup mieux. Votre trajet sur la 13 est très agréable. Alors que si vous mettez, je sais pas, un groupe de punk, ça peut vous entretenir dans cette espèce d'énergie un peu difficile du métro. Donc
c'est vrai que c'est très apaisant.
Voilà.
Et quelles sont tes influences et tes goûts musicaux ?
Alors, les miens sont très différents de ceux de Pierre, même s'ils sont, il y en a qu'on a en commun. Mais c'est vrai que dans Paper Moon, il a tout un tas de chanteuses qu'il adore, entre Françoise Hardy, Tori Amos et tout un tas de groupes. Alors, Pierre a été très longtemps chroniqueur pour Femme Actuelle. Pour les albums musique, donc il a des piles et des piles et des piles de disques chez lui. D'ailleurs, j'avais des cadeaux réguliers où il me faisait des piles, il me disait écoute ça, ça va être super, ça va te plaire. Donc les influences sont diverses et variées, mais ça peut être les Beatles, ça peut être David Bowie, ça peut être en fait sur l'écriture des textes et sur la musique. Il n'y a pas une seule couleur dans Paper Moon. Si on écoute vraiment depuis le début, les chansons sont composées au piano, même si dans les deux derniers albums, beaucoup d'amis ont composé et Pierre a écrit dessus. Donc les influences sont multiples. Et voilà. Et sinon, mes influences de chanteuses sont variées aussi. Ça va aller des chanteuses de soul, Aretha Franklin, Etta James, qui sont pas très représentées dans Paper Moon, mais que j'adore. En France, j'adore Camille, j'adore tout un tas de chanteuses comme ça, Jeanne Chéral, qui sont aussi sur des textes et des musiques assez riches.
Qui ont un côté Paper aussi, du coup, piquante. Hein,
ouais, absolument, absolument, et qui sont des musiciennes. Donc les influences sont variées.
Et pour terminer, quels sont tes projets ? Est-ce qu'un autre album est à prévoir ou une tournée ?
Alors, le dernier projet Paper Moon, ça serait de reprendre des chansons, des albums, des 5 albums, et d'en faire des adaptations dans d'autres langues. Donc, j'ai déjà reçu, je suis en train de travailler mon chinois en ce moment.
J'allais dire, tu vas chanter en taïwanais ?
Absolument ! Alors, je vais essayer de m'entourer pour prononcer le mieux possible, mais ça m'amuse, ce nouvel éclairage avec d'autres langues. qui vont être un challenge pour moi, vocal et ben, on verra. Ça, c'est le prochain projet. Et sinon, j'ai d'autres projets à titre perso. Je chante depuis peu dans un groupe qui s'appelle De la Barbe et du Coton. Donc, on est 5 chanteurs et un guitariste. Et c'est vraiment sûr, c'est axé sur la voix. On va vraiment mettre la voix à l'honneur. Et la polyphonie, puisque chacun chante des choses différentes. On fait un concert d'ailleurs dans le cadre du festival Musique en Campagne, le 15 décembre à Francières. Donc voilà, pas très loin. Donc on est très heureux, ça sera notre deuxième date. On en a fait une première cet été qui a été très prometteuse, qui nous permettra de faire des petits ajustements. Et puis je fais aussi, ça fait depuis presque 10 ans maintenant que j'écris mes chansons à moi, parce que dans Paper Moon, je ne suis qu'interprète. Et donc là, ça sera un projet à mon nom, Iris Kochleff. Et donc ces chansons vont voir le jour en live le 16 novembre à Saint-Léger-aux-Bois pour un premier concert où je suis seule en scène, donc accompagnée de ma guitare, de mon piano et de mon looper et de ma voix évidemment. Donc ces chansons qui ont maturé longtemps, mais quand on est à côté d'un Pierre Fa qui a une sacrée plume, c'est un peu impressionnant. Je pense que c'est ça qui parfois m'a freiné un peu sur le « allez, il faut y aller là ». T'as des choses à dire aussi. Mais ça y est, je me sens prête et je me sens mûre à raconter des choses. Et il y a tout un tas de j'ai des idées, j'ai contacté une amie qui peint. J'ai envie de mettre du live painting sur la musique. Donc là, je fais un premier concert toute seule. Et je pense qu'après, ça sera moi à la musique et une amie à la peinture pour qu'il y ait des choses à écouter et puis des choses à voir. Voilà. Donc le 16 novembre, c'est à Saint-Léger-aux-Bois, à Coucou-la-Réserve.
Okay. Et le seul en scène, c'est quand même un exercice particulier, enfin, à prévoir.
Je vous dirai ça le 17 novembre.
Je n'ai pas l'impression. Hein,
je suis en train de construire le projet et de mettre le spectacle en forme. Pour l'instant, il est trop tôt pour vous dire comment ce sera, puisque ça n'est pas encore figé.
Mais quel teasing.
On a hâte. Mais à Compiègne, on te connaît aussi ce que tu te produis sur scène avec le groupe Sweetie Marties.
Absolument, ça fait des années qu'on chante avec Charles, Martin et Denis. Et là, on chante les chansons des autres, pour le bonheur, j'espère, de vos petites oreilles. Et on se retrouve régulièrement dans tout un tas d'événements où on essaie vraiment toujours de reprendre à notre goût les chansons que les gens aiment. Parce que dans certains événements, alors parfois, voilà, des événements comme à Coucou la Réserve, où là, j'ai 45 minutes, les gens vont être en face de moi, vont me regarder. On peut raconter toutes nos histoires et les gens sont là pour ça, sont là pour faire un voyage. Avec Sweetie Smarties, c'est dans d'autres cas où les gens sont aussi là pour se retrouver, pour discuter autour d'un verre, autour d'une présentation.
Ou danser même.
Ou danser, oui. Ou faire la fête. Donc on fait plutôt là de la reprise et c'est un autre projet qui nous réjouit aussi.
Bah merci beaucoup Iris.
Merci Anne, merci Aurore.
N'hésitez pas à écouter les albums de Paper Moon qu'on trouve sur toutes les plateformes de streaming. Il vaut le détour. Et non seulement parce que la chanteuse interprète est une artiste compiénoise, mais aussi parce que ses chansons, comme on le disait, font un bien fou avec leur grande douceur et leur mélancolie douce.
En boucle, on a dit, on le répète. Hein.
Voilà. N'est-ce pas ? On arrive au terme de cette émission. Prochains événements des bibliothèques de Compiègne, bah demain, samedi, la bibliothèque vous propose un bar musical à partir de 10h30, une heure de détente, au son des instruments rituels et atypiques avec Larissa Roy. Si vous ne pouvez pas participer à cette séance, sachez qu'il y en aura une seconde le samedi 12 octobre.
À la bibliothèque Morichon le 12 octobre ?
Oui.
Et demain, à la bibliothèque Saint-Corneille. Hein.
Oui. Le Cinéclep vous propose demain aussi, à 20h, une séance spéciale dédiée à Alain Delon, avec le film de Jean-Pierre Melville, Un flic, et avec la présence de Philippe Labrault. À partir du 5 octobre, la bibliothèque vous propose une exposition de photos, La route vers Arona, réalisée par Diederik Wijmans, un Néerlandais de naissance qui a choisi Arona en Italie comme résidence. Le prochain Café Philo des Petits Socratiques aura lieu le samedi 5 octobre à 17h. Ce sera sur le thème mystère et transparence et animé par Marie-Danielle Soncourt. On se retrouve la semaine prochaine, le vendredi 4 octobre à 18h pour notre rendez-vous culture à la bibliothèque et pour notre prochaine émission qui sera consacrée aux séries. Ce sera le vendredi 18 octobre à 18h. On vous souhaite un très bon week-end et bonne écoute de Graphite.
Merci Anne. Si je peux me permettre juste d'ajouter, les ateliers d'écriture radio pour écrire des chroniques et participer à des émissions, notamment la matinale infernale, reprennent à partir de mercredi prochain, 17h45 à la bibliothèque. Ce sera en section jeunesse, mais c'est accessible à tous. On a des participants de 11 à 60 ans. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de venir jeter un œil, poser vos questions mercredi prochain.
Pas besoin de s'inscrire à l'avance, ils peuvent venir.
Non, ils peuvent venir, comme ça. Je les accueillerai.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Aurore, et merci encore, Iris. Et beau week-end.
Au revoir.
Mmh.